quoi la métaphysique aujourd'hui, 8 mai 97, troisième cours.
Alors il y a deux petites questions très rapides, hein. C'est une question un petit peu de vocabulaire, et puis préciser une citation que je vous ai faite. Pouvez-vous nous préciser les rapports entre pensée et intelligence ? L'intelligence, vous voyez, c'est deux choses différentes. Hein. Enfin, c'est dans, du même ordre, mais simplement, vous voyez. En fait, en français, c'est difficile parce que les termes sont assez différents. Vous voyez, je peux dire, il y a l'intelligence, il y a la raison, et puis je peux parler de la pensée. Alors, la pensée, c'est plus l'expérience de l'opération intellectuelle. Vous voyez, je n'ai pas l'expérience de mon intelligence. L'intelligence, on dira, hein, c'est un terme un petit peu technique au point de vue philosophique, c'est une puissance de notre âme. C'est donc une capacité. Et l'intelligence, c'est en nous une capacité naturelle qui s'actue dans des actes d'intelligence, notamment la pensée. Donc la pensée, vous voyez, c'est un terme assez vague. Hein. Je préfère dire plutôt, j'ai l'expérience d'un acte d'intelligence qui est de connaître la réalité existante au niveau de la connaissance intellectuelle. Donc, vous voyez, c'est très difficile à préciser. C'est en philosophie du vivant qu'on regarde ça en premier lieu. En philosophie du vivant, on regarde l'expérience que nous avons de nos opérations vitales intellectuelles. Et en ce sens, on les distingue des opérations vitales de la vie sensible. Vous voyez, c'est une remarque que Aristote fait déjà à son époque. Alors, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Il dit, une des grandes erreurs des philosophes, c'est de confondre l'intelligence avec l'imagination. L'imagination, c'est d'ordre sensible. Ça n'est pas proprement humain. On va dire l'imagination représente quelque chose. Tandis que la pensée, l'intelligence, saisit la signification d'une chose. Là, c'est une distinction extrêmement importante. Quelle différence faites-vous entre représentation et signification, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est une chose très importante à préciser parce que la plupart des auteurs modernes parlent des représentations intellectuelles. Ce en quoi ils montrent, hélas très souvent, qu'ils tombent dans cette erreur de confondre l'imagination et l'intelligence. L'imagination représente, c'est quelque chose de sensible. Et l'imagination produit en nous des images. Et ces images, elles sont une première synthèse dont nous sommes source. Tandis que la signification d'une chose, vous voyez, c'est ce qu'on appellera, dans un terme un peu technique en philosophie, hein, ça se fonde sur ce qu'on appelle la quidité, c'est-à-dire la détermination essentielle de la réalité. Et si par exemple je prends le mot homme peut appeler en vous une représentation imaginative. Vous vous représentez tel homme. Je peux dire le mot chat, vous représentez tel chat. Et puis vous pouvez rêver du chat idéal, comme vous pouvez rêver de Miss idéal, mademoiselle idéale. Elle n'existe pas. Il n'existe que des mademoiselles concrètes, vous voyez. Et puis je peux réfléchir sur ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'un être humain. Vous voyez. Quelle différence faites-vous entre vous représenter une chose, c'est sensible, il y a une image, et saisir la signification profonde d'une chose qui présuppose un concept. Bon, le concept, c'est le fruit de notre intelligence, de notre pensée. Tandis que l'imagination, l'image, est d'ordre sensible. Et oui, l'image est toujours singulière. C'est telle chose que je me représente. Alors que la signification, elle a un mode universel. Oui, ça, c'est très important à bien saisir, vous voyez. Le passage du singulier à l'universel, c'est un des aspects pour saisir le passage du sensible à l'intelligible. Le sensible, c'est toujours singulier. L'image, je me représente telle chose. Il n'y a pas d'image universelle. Je ne peux pas m'imaginer l'homme en soi. Par contre, je peux saisir qu'est-ce que l'homme. Et ce qu'est l'homme, c'est attribuable à tout homme. Je le saisis à partir de multiples hommes. Et je saisis la signification universelle attribuable à tout homme. C'est-à-dire que l'image, c'est tel homme. Et donc, voyez bien la différence. Oui, Aristote fait cette petite remarque aussi très très amusante au début de la physique. Il dit « Tous les enfants commencent par appeler tous les hommes papa. » Hein, pardonner à tous les hommes le nom de Père. Parce qu'ils sont d'abord dans l'aspect sensible. Oui, je me représente. Et c'est une question très intéressante. Hein. Est-ce qu'on peut saisir pour un enfant le premier moment où il passe, où il saisit l'universel? Oui. Ou bien non? Et c'est le problème de l'abstraction, si vous voulez. Voyez, un passage du sensible à l'intelligible. Alors, je n'entre pas là-dedans, parce que ce serait très une autre session. Ce serait une session sur la vie de l'intelligence. Mais c'est très intéressant de voir ça, oui. Hein, comment... Oui, alors, il y a plusieurs manières dont ça a été abordé. Hein. La position de Platon, elle est assez simple. Platon dit, pour saisir l'universel en soi, hein, il faut nier, il faut quitter le sensible. Hein. C'est le fameux... Hein, je dirais plutôt le quitter que le nier. Hein. C'est le fameux livre 7 de la République qui donne dans un langage mythique, hein, l'allégorie de la caverne, la théorie de la connaissance de Platon. Où Platon montre très bien, le singulier sensible est toujours mensonger. Parce qu'il ne me donne pas en vérité tout ce qu'est l'homme. C'est vrai, vous voyez. Chacun de nous, nous sommes un homme particulier. Personne d'entre nous n'oserait dire, hein, regardez-moi, je suis l'homme. Et il n'y en a qu'un pour qui c'est vrai. C'est pour ça que la parole de Pilate, hein, une chose très très forte, hein, quand Pilate dit voici l'homme, c'est pas seulement de dire voici tel condamné. C'est l'homme par excellence, vous voyez. L'homme en soi de Platon, il est vrai pour le Christ. Il y a une adéquation entre l'homme singulier et tout ce qu'est l'homme, hein, parce qu'il est l'homme parfait. Oui. Mais, vous voyez, c'est un rêve pour le philosophe. Donc, Platon a ce sentiment. Tous les hommes singuliers limitent ce qu'est l'homme. Je vois en vous des quantités de limites. Donc, je ne comprends pas parfaitement tout ce qu'est l'homme quand je vous connais. Donc, il faut donc quitter tout ce sensible qui me fatigue pour enfin regarder l'homme en soi, la chose en soi. Au moins, là, c'est reposant. Et je retrouve quelque chose que j'ai perdu parce que j'étais dans le ciel des idées avant d'être uni à ce corps. Le sensible est mensonger. Je suis rivé, attaché avec un collier, vous voyez, des chaînes tournées vers le fond de la caverne et je ne vois que le sensible. Donc pour Platon, il faut quitter le sensible pour saisir l'intelligible qui existe en soi. Alors vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Aristote souligne que c'est une des choses positives de Platon. Il dit « Platon le premier a compris l'importance de l'universel. Je ne peux pas me contenter uniquement d'une chose singulière. » Si je cherche la vérité, je veux trouver quelque chose de nécessaire, un fondement nécessaire, et trouver un certain absolu. Mais, Aristote ajoute, mais l'erreur de Platon, c'est d'avoir attribué l'être à ses formes intelligibles. Et pour Platon, la forme intelligible en soi, seule, existe en vérité. Donc pour Platon, l'être véritable, c'est la forme intelligible. Il existe un ciel des idées, dans lequel existent toutes les formes en soi. Et c'est ça l'être véritable. Tandis que toutes les choses singulières, c'est l'être mensonger, l'être apparent, qui n'est que mensonge, sur lequel je ne peux pas m'appuyer. Et donc Platon, parce qu'il introduit un dualisme entre l'âme et le corps, introduit un dualisme entre le sensible et l'intelligible. Et je dois rejeter le sensible pour me tourner vers l'intelligible qui seul existe véritablement. Pour Aristote, je saisis l'intelligible dans le sensible. Le sensible, dira Aristote, il est intelligible en puissance, c'est-à-dire capable de devenir intelligible. C'est le problème de l'abstraction. Mais pour Aristote, l'intelligible n'existe pas en soi dans le ciel des idées. Il n'existe comme tel que dans notre intelligence. Mais il est saisi fondamentalement dans la réalité. C'est le fameux problème qu'Aristote développe dans le traité de l'âme, de l'intellect agent, l'intellect actif. Que saint Thomas a repris et énormément développé, surtout dans le Contrat de Gentiles, parce que pour saint Thomas, c'est une question capitale. Et pour saint Thomas, c'est essentiel pour qu'il y ait une théologie. S'il n'y a pas de conquête vitale de notre intelligence qui conquiert la connaissance, il ne peut pas y avoir de théologie. Oui. Pour Platon, la position de Platon amène à une pure passivité. Mon intelligence doit être uniquement éclairée par les formes intelligibles en soi. Je ne conquiers pas l'intelligible pour Platon. Pour Aristote, je le conquiers. Donc Aristote veut maintenir à la fois la réceptivité de l'intelligence à l'égard du réel et le fait que c'est elle qui passe du sensible à l'intelligible. C'est-à-dire pour Platon, l'intelligible existe en soi et je ne fais que me tourner vers lui. Ce n'est pas moi qui le conquiers. Voyez. Donc, d'où cette chose capitale au point de vue de la pensée, de la conception de l'intelligence, ce qu'Aristote appelle l'intellect actif ou agent. L'intelligence est premièrement une puissance de réceptivité. Quand je pense toujours à quelqu'un, à quelque chose. Et c'est autre chose que voir ce quelqu'un ou l'imaginer. Mais en même temps, je conquiers l'intelligible. grâce à cette vitalité de mon intelligence. Et pour Aristote, l'intelligence est ce qu'il y a de plus vital et de plus vivant en nous. La vitalité de la vie végétative est peu de choses à côté de celle de l'intelligence. Et pourtant, oui, quelle puissance vitale dans la vie végétative. Regardez le développement de l'embryon, c'est extraordinaire. Bien, c'est peu de choses à côté du développement de notre intelligence qui, à partir de l'expérience qui implique le sensible, conquiert jusqu'à la sagesse, la contemplation de Dieu. Alors que pour Platon, au contraire, l'expérience n'est aucune source, elle ne fait que m'entraver. Relisez le début du Phédon, c'est très clair, où Platon dit « le sensible ne peut être qu'une entrave pour la pensée ». Alors, vous voyez, je ne développe pas parce que c'est une très vaste question, mais voyez bien les enjeux qu'il y a. Alors, ensuite, pouvez-vous reformuler ce que Karl Barth dit à propos de l'ambition hegélienne ? Alors, c'est très rapidement, si j'avais su, j'aurais apporté le texte pour vous le lire. Il dit simplement que l'ambition hegélienne, c'est de trouver une méthode universelle. Il prend une image très belle, très jolie si vous voulez, je ne sais pas si c'est très beau, plutôt assez joli. Il dit, quand on se oui, c'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'il dit quand on se promène dans le système hegélien, il faut déjà le faire oui, pour s'y promener, il faut déjà être un peu abstrait. Oui, bon. Alors disons que Karl Barth se promène chez Hegel, alors il dit quand on se promène dans le système hegélien, on a l'impression de se promener dans un village de tisserands des temps anciens, où on entendait dans toutes les maisons le même clac-clac-clac des métiers à tisser. Ou qu'on se promène chez Hegel, on entend le rythme ternaire de la dialectique. Non pas, vous voyez, on dit toujours thèse, antithèse, synthèse, ça c'est très schématique, c'est pas ça. C'est identité, différence, identité de l'identité de la différence. Vous voyez, si vous y comprenez quelque chose. Oui. Identité, oui, ça c'est important à comprendre. La pensée dialectique, c'est une pensée qui commence par l'identité, c'est-à-dire l'identité du « je pense ». Je suis identique à moi-même dans ma propre pensée. Donc, tandis que la pensée réaliste, c'est une autre manière de voir ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je commence par ce qui est, il est autre que mon intelligence. Donc je commence, quand je suis en philosophie réaliste, je commence par la différence, par l'altérité. L'autre s'impose et en même temps je le rejoins dans un jugement. Vous savez, cette question de Lévinas, qui hante Lévinas, qui dit « mais comment je peux rejoindre l'autre ?» C'est toute sa philosophie du visage. Il dit « le visage est une présence, en même temps il est autre que moi, jamais je le saisis, il est un mystère. » Ce qui est vrai, oui. Dans l'individu qui est l'autre, il y a quelque chose qui est toujours ineffable. Alors Lévinas dit « et donc je peux jamais rejoindre l'autre comme autre ?» Bien Aristote fait ce pari, si vous voulez, ou ce passe-pari, prend comme point de départ que l'intelligence dans le jugement adhère à l'autre tel qu'il est, et le rejoint dans son être même. Le jugement, pour Aristote, c'est une opération de l'intelligence qui est une adhésion à la réalité existante telle qu'elle est. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, le jugement d'existence, ceci est, il est fondamental et au-delà de la critique. C'est la vie, c'est la source profonde de la vie de notre intelligence. Tandis que pour la pensée dialectique, on commence par l'identité du « je pense ». Donc, qu'est-ce que l'autre ? Si je commence par l'identité de mon « je pense », l'autre, c'est le moment de la différence, c'est ce que Hegel appelle le moment dialectique, qui est aussi le moment négatif. L'autre, c'est ce qui n'est pas ma pensée. Oui, c'est très intéressant. Hegel dit textuellement que le jugement est toujours négatif. Et c'est terrible, oui, c'est déjà Sartre, l'enfer c'est l'autre. Si je commence par mon « je pense », tout ce qui est en dehors de mon « je pense », ce n'est pas moi. Donc ça m'est étranger. Oui, c'est très intéressant. C'est pour ça que le troisième terme... Donc, oui, Hegel commence par l'identité du « je pense », donc par le concept. Par conséquent, par ce qu'on appelle en philosophie l'appréhension. Tout commence par l'appréhension. Je commence par le concept. Dès que pour Aristote, je commence par le jugement, l'adhésion à ce qui est. Et j'assimile une détermination de l'autre, mais c'est second. C'est un conditionnement. Pour Hegel, je commence par le concept. Ah, oui, ça, c'est l'influence de Descartes. Descartes conduit Hegel à affirmer « je commence par l'identité de la pensée ». À elle-même, par l'identité de mes idées, de mon concept. L'autre, c'est ce qui n'est pas moi. Donc, oui, c'est négatif. Je dois donc, le troisième moment, absorber l'autre dans ma pensée pour qu'il y ait l'identité de l'identité et de la différence. Il faut que la différence que l'autre impose à ma pensée soit résorbée dans l'identité de ma pensée. Oui, et c'est comme ça qu'il montre le mystère de la Trinité, Le Père, c'est l'identité éternelle à lui-même, qui se nie lui-même dans son Fils pour le réintégrer avec lui dans l'unité de l'Esprit-Saint. Vous voyez, il dit textuellement que la dialectique, c'est le mouvement ternaire éternel de l'Esprit qui est montré dans la Trinité. Donc il prend comme base la dogmatique chrétienne qu'il absorbe de manière rationnelle. C'est terrible. Mais c'est plus une procession, une génération éternelle de la contemplation du Père, c'est la négation du Père dans le Fils. C'est pour ça qu'il dit textuellement ça. Le Père se nie lui-même dans son Fils. Et quand il crée le monde, il se nie pour créer le monde. Et donc c'est la négation. C'est plus, vous voyez, une fécondité dans la contemplation, c'est une négation de soi-même. Et si je me nie moi-même, il faut que je me réintègre avec moi-même. Donc le troisième terme, qui pour Hegel correspond au raisonnement. Vous voyez, on retrouve les trois opérations de l'esprit. Concept, appréhension, jugement, raisonnement. Alors pour une philosophie réaliste, tout est dans le jugement. Et il y a deux opérations qui sont de l'ordre du conditionnement, l'appréhension et le raisonnement. Alors vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est très important ça. Il y a un mouvement, là, vous voyez, dialectique, qui est commandé par l'identité du concept et le cheminement, on progresse par la négation. Vous voyez, Hegel dit ça, il dit « le moment moteur, c'est la négation ». On progresse dans la dialectique par la négation. Alors, vous voyez, par exemple, quelle conception il aura de la liberté? Il dit « il y a deux types de liberté ». Il y a la liberté du quant à soi. La liberté du quant à soi, c'est celle-ci. C'est celle de mon identité à moi-même. Je suis identique à moi-même, fermé à ce qui n'est pas moi. Et puis, il y a ce qu'il appelle la liberté du chez-soi, bei sich, la liberté du chez-soi. Je suis chez moi dans l'autre. C'est le troisième moment. Et il dit textuellement, être libre chez soi dans l'autre, savoir absorber l'autre en soi-même. Donc, c'est, voyons, c'est un boa qui avale tout. Dans l'identité, j'absorbe l'autre en le niant pour le rendre identique à moi-même. Oui. Parce que s'il n'est pas moi, il faut que je le nie pour qu'il soit comme moi. Oui. La négation de la négation, c'est l'affirmation pour lui. Ah oui, c'est pas intelligible, c'est une erreur. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il théorise ça. Il dit ça, c'est le mouvement éternel de l'esprit dont nous ne sommes que les spectateurs. Oui. Ah, oui. Donc, vous voyez, c'est ça que veut dire Karl Barth. L'intuition hegelienne, ou si vous voulez, alors, et vous allez dire, mais est-ce que ça a quelque chose qui a un certain fondement? Est-ce que ça peut être vrai sous un aspect, ça? Est-ce qu'il y a un lieu où on peut redire que Hegel a trouvé quelque chose de juste? C'est quand même pas un imbécile. Alors, si on prend l'esprit du côté de la croissance, c'est intéressant. Oui. Pour Aristote, tout est commandé par la finalité. Donc, ce qui est important pour Aristote, c'est la vérité. Donc, c'est le jugement. Pour Aristote, il ne cesse de le dire, l'opération parfaite intellectuelle, c'est le jugement, et non pas le raisonnement. Vous savez, il y a des gens qui raisonnent, qui raisonnent, qui raisonnent, mais qui ne saisissent rien, qui ont un pois chiche à la place du cerveau. Ils raisonnent. Ah oui, les fous peuvent raisonner de manière parfaitement cohérente et logique, mais ils ne saisissent pas toujours la vérité, et même jamais, quelquefois. Oui, le raisonnement, c'est l'ordre du conditionnement. Vous pouvez être capable de très bien raisonner et pas saisir la vérité. Pour Aristote, c'est le jugement qui est l'opération parfaite parce qu'on y saisit la vérité. J'adhère à ce qui est. Mais comme j'ai une intelligence qui est liée au sensible à cause des sensations et de l'imagination, je dois accepter deux conditionnements par rapport à ce jugement, ce qu'on appelle l'appréhension, c'est-à-dire l'assimilation des formes intelligibles, et puis le raisonnement, qui est du côté de la croissance. Oui, je fais des raisonnements pour grandir dans ma connaissance. Oui. Je passe d'un jugement à un autre jugement. Oui, mais je prends un exemple tout simple de raisonnement. Vous allez voir. Vous allez voir que le raisonnement est toujours finalisé pour Aristote par un jugement. Oui, je dis, l'exemple classique qu'on donne du syllogisme, tous les hommes sont mortels. Quand je dis ça, c'est un jugement. J'énonce quelque chose que je conçois être une vérité. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. C'est aussi un jugement. Je constate que Socrate qui est en face de moi est un homme. Donc, Socrate est mortel. Oui, troisième jugement. Donc, il y a les deux prémices, la majeure et la mineure, et puis la conclusion qui est ce que je tire des deux précédents. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc j'éclaire Socrate est un homme par tous les hommes sont mortels, et je dis, donc, Socrate aussi est mortel. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est impliqué dedans, parce que Socrate est un homme. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai raisonné. Mais ce raisonnement, il est fait pour me faire arriver à un nouveau jugement, qui est l'énoncé d'une certaine vérité. Oui, le raisonnement est finalisé par une vérité, par un jugement. Réfléchissez sur vos raisonnements, même très pratiques. Je dois aller à Paris, j'ai plusieurs moyens pour y arriver, lequel je vais prendre en fonction des circonstances concrètes. Vous voyez, je raisonne tout le temps, mais pour arriver à une détermination, à un jugement où je m'engage. Quelqu'un qui raisonne. Mais on est à un moment, on dit, écoute, t'es fatigant, décide-toi un bon moment. Vous savez, celui qui est en permanence dans les raisonnements pratiques. Hein. Je pourrais peut-être prendre le TGV, mais si jamais il y avait une grève, peut-être que je prévois aussi une voiture. Peut-être que ma voiture tombe en panne, donc peut-être faut que j'ai un avion, donc peut-être faut que je téléphone à un ami. Enfin, peut-être ce serait mieux carrément de passer par le bateau. Vous voyez, et vous n'en sortez plus, vous voyez. Et vous pouvez raisonner indéfiniment, délibérer indéfiniment sur les moyens. Vous n'en sortirez jamais. Donc il y a un moment, il y a une vérité qui se détermine. Mais le raisonnement est finalisé par un jugement, soit pratique, soit spéculatif. Pour Hegel, tout est commandé par le raisonnement. Alors je vous pose cette question, est-ce qu'il y a un endroit où c'est juste ? Eh bien, si je regarde l'esprit uniquement du côté de la croissance, ce que dit Hegel est intéressant. Parce que pour qu'un être grandisse, cela présuppose une identité à lui-même et qu'il puisse absorber quelque chose qui lui permette de grandir pour se développer. Donc Hegel, c'est une philosophie qui regarde l'esprit que dans sa croissance vitale. La seule chose qui est dangereuse, c'est qu'il oublie la finalité. Donc c'est une croissance indéfinie, hein, c'est l'infini qui remplace la détermination. Et quand il s'agit de Dieu, c'est un mouvement éternel qui remplace la simplicité de Dieu. Et c'est une croissance sans finalité. Donc c'est pour ça que je pourrais dire, si je vais jusqu'au bout, que Hegel, c'est un philosophe du conditionnement pris comme un absolu. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que toute vision purement psychologique est toujours dialectique. Parce que la psychologie, c'est le règne du conditionnement. Et donc on voit toujours l'autre comme une chose à absorber. Et c'est très très important à comprendre. Parce que Hegel a une influence énorme aujourd'hui. Vous voyez, dites-vous bien ça. Karl Barth dit que c'est encore l'esprit de notre époque. Et je crois qu'il a raison sur beaucoup de choses. Il marque les mentalités beaucoup plus qu'on ne croit. Regardez par exemple certaines conceptions politiques d'aujourd'hui. Mais c'est complètement de l'hegelianisme. L'équilibre de la terreur, c'est du pur Hegel. Quand il dit, puisque je ne peux pas absorber l'autre, il faut maintenir l'équilibre de l'opposition. Vous voyez, donc c'est intéressant de bien voir. Si je regarde que la croissance pour elle-même, je vais dire, ça présuppose l'identité à lui-même du vivant et qu'il puisse absorber un autre, un aliment, qui fait qu'il peut grandir. Et ça, quand je crois que je peux le dire parce que Hegel lui-même le dit. Il dit, la vie de l'intelligence, c'est comme la nutrition végétative. De même que le vivant qui se nourrit détruit l'aliment pour le faire sien et ainsi grandir, de même la pensée détruit l'être pour se développer elle-même. Et donc ce n'est plus une analogie, c'est une similitude qu'il fait entre la vie de l'esprit et la vie végétative. Pour lui, il n'y a pas de différence, c'est le même schéma. Et c'est très très intéressant. Or, pour Aristote, il y a une très grande différence. Parce que la vie végétative, c'est une assimilation substantielle de l'aliment. Tandis que dans la vie de l'esprit, c'est une assimilation intentionnelle de la forme. Pourquoi ? Parce que le respect de ce qui est à cause du jugement d'existence. L'appréhension est à l'intérieur d'un jugement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement au niveau de la vie végétative. Oui. Donc vous voyez, c'est très important à bien saisir. C'est peut-être un peu complexe pour certains, mais oui, c'est important de bien voir. Que Hegel, ou si vous voulez, la différence entre les deux. Aristote, c'est un philosophe qui a compris l'importance de la finalité. C'est pour ça que sa philosophie devient une sagesse. Hegel règne dans le conditionnement. Il prend le conditionnement comme un absolu et il en fait le tout de la philosophie. Donc, le conditionnement rationnel. Pour ça, oui, je vous ai dit tout à l'heure, la différence entre intelligence et raison. Pour Aristote, il y a une différence entre les deux. L'intelligence, c'est connaître la vérité. La raison, c'est le mode humain de notre intelligence. Parce que j'ai une intelligence qui est liée au sensible dans son exercice, elle a un mode rationnel, c'est-à-dire abstractif et qui progresse par des raisonnements. Pour Hegel, l'intelligence est absorbée par la raison. Il n'y a plus que le conditionnement rationnel, on ramène tout à l'appréhension et au raisonnement, et le jugement n'est qu'une médiation. Et tandis que pour Aristote, tout est finalisé par le jugement. Et il y a un conditionnement, appréhension et raisonnement. Vous voyez, ici, c'est vraiment... Je crois que c'est très éclairant pour bien saisir la différence entre les deux. Et qu'est-ce qui permet de comprendre ça ? C'est la primauté du jugement d'existence. Vous voyez ? Au fond, Hegel ne saisit pas le réalisme du jugement parce qu'il ne part pas du jugement d'existence. Et il le dit textuellement. Hein, il dit, en philosophie, partir du ceci est, c'est de la naïveté. Oui. C'est très, très éclairant. Oui. Partir du ceci est, c'est la naïveté. On ne peut pas partir du ceci est. Ce serait de l'immédiat. Ce serait un a priori. Alors, il préfère partir de son « je pense ». Alors, je vous ai dit tout à l'heure, et je crois important que, pour bien saisir le contexte d'aujourd'hui, je voudrais vous lire deux textes. Mais pour bien mettre ça en lumière, je mets en lumière justement deux ou trois aspects qui me semblent très importants par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Vous voyez, je pourrais intituler ça, si vous voulez, puisque notre recherche, c'est pourquoi la métaphysique aujourd'hui. Quels sont un peu les grands obstacles à la découverte de la métaphysique? Et ça, c'est peut-être très intéressant, et on trouve, je crois, là, même des choses qu'on voit déjà dans des penseurs qui nous ont précédés. Oui, je dirais, premier grand point, qui est très important, c'est l'importance aujourd'hui des sciences et des techniques. Oui. Ça, il faut se poser la question, vous voyez, qu'est-ce que la métaphysique et qu'est-ce qu'une philosophie réaliste qui va jusqu'au bout de la recherche de la vérité, est-ce qu'elle a encore un sens dans un monde qui est purement celui des sciences et des techniques? Alors, vous voyez, on a ici, je dirais, deux grandes positions, si vous voulez. Il y a ceux qui sont complètement, je dirais, fascinés par la connaissance scientifique et technique. Et je crois que ça éclaire beaucoup de choses par rapport à Descartes et par rapport à Kant. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est, vous voyez, quand Descartes dit qu'il cherche la certitude, je crois qu'il y a deux lumières pour éclairer ça. Premièrement, Descartes est hanté par la rigueur et la cohérence de la connaissance scientifique, spécialement de la géométrie, des mathématiques. Donc il dit que la philosophie doit avoir la même rigueur que la science mathématique. Il va jusqu'à dire qu'on doit découvrir une preuve de l'existence de Dieu qui soit plus certaine qu'aucune démonstration géométrique. Et là aussi, c'est très intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on ne voit pas, voyez ? Quand je regarde les sciences et les techniques, je peux dire que si je me situe du côté du raisonnement, c'est vrai que le raisonnement scientifique a une cohérence parfaite. C'est ça qui est séduisant dans la science. C'est une rigueur dans le raisonnement. Mais qu'est-ce que la philosophie saisit qui échappe à la science? C'est justement le jugement d'existence. Là, il y a un point extrêmement important à bien saisir. Le jugement d'existence d'une part, la finalité d'autre part. Alors, vous voyez, premier aspect, vous avez deux grandes positions modernes qui sont très fascinées par les sciences. Je vais vous lire un texte, parce que c'est pour ça que je voulais tout à l'heure vous lire le texte de Hegel dont je vous ai parlé. Parce que c'est très éclairant. Donc, être fasciné par les sciences et les techniques, on veut se mettre à l'école d'une méthode scientifique. Et c'est pour ça que Descartes et Kant sont fascinés par l'aspect scientifique. Oui. Aussi bien Descartes que Kant, de deux manières très différentes. Mais l'un et l'autre. Oui, l'aspect de la mesure, l'aspect de la cohérence. Mais là, il y aurait quelques questions à étudier en épistémologie, sur lesquelles je n'entre pas, parce que d'abord, je ne suis pas assez compétent du point de vue scientifique, et puis, ce n'est pas notre sujet. Mais vrai, par exemple, posez-vous la question, quelle différence y a-t-il entre expérience philosophique et expérimentation scientifique? Quelle différence y a-t-il entre saisir une loi scientifique et découvrir un principe philosophique? Quelle différence y a-t-il entre une mesure scientifique et une sensation humaine? C'est très important, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on est tellement enfoncé là-dedans que non seulement c'est les sciences et les techniques qui règnent, mais qu'on en sort une idéologie qu'on appelle le positivisme. Et je crois que c'est peut-être le plus grand obstacle et le premier par rapport à la découverte de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que le positivisme? Le digne représentant de ça, c'est un Français, c'est Auguste Comte. Je vous ai déjà cité tout à l'heure, qui a encore une église où on vénère Auguste Comte à Paris. Et Auguste Comte, le positivisme, ça consiste à dire quoi? Seul ce que dit la science est la réalité. Donc, il y a identité entre ce que la science dit et le réel. Donc la science devient mesure de la connaissance humaine. Ce que vous dites, si ça n'est pas quelque chose qui relève de la science, ça n'est pas rigoureux, ça n'a aucun intérêt. N'existe que ce que la science connaît. Alors, il y a quelque chose de très important, parce que qu'est-ce que la science peut connaître de la réalité? Uniquement le mesurable. Donc ça veut dire que quand vous proclamez votre gloire d'être relatif uniquement à la science, vous êtes content d'être uniquement dans le mesurable. Mais est-ce que tout est mesurable? Est-ce que l'esprit est mesurable? Et c'est très important, ça. Est-ce que je peux mesurer votre pensée? Est-ce que je peux mesurer votre amour spirituel? Et le mesurable, ça se fonde uniquement sur la quantité. Donc là, vous voyez, on retrouve un point extrêmement intéressant. Quelle différence faites-vous entre quantité et qualité? Ça, c'est un problème métaphysique extrêmement important. La science, puisqu'elle est commandée par le mesurable, puisque forcément, on applique une abstraction mathématique, donc le nombre ou la géométrie, elle est tout entière, elle repose sur la quantité. Qu'est-ce que vous atteignez par la science? Uniquement un aspect quantitatif de la réalité. La qualité n'est pas le fruit de la quantité. Oui, oui, si vous voulez. Oui, je ne peux pas être uniquement saisir la qualité d'une chose uniquement par sa quantité, ou par la mesure, oui, le mesurable. Et donc, comme tel, vous voyez, les sciences et les techniques imposent quelque chose. Alors ici, il y a un problème extrêmement intéressant, vous voyez, qu'un des plus grands obstacles, ou si vous voulez, une des grandes questions que je pose au monde d'aujourd'hui, c'est est-ce que les sciences et les techniques, est-ce que c'est encore possible d'avoir une pensée métaphysique dans un monde qui soit purement scientifique et technique? Autrement dit, face à un monde qui est uniquement dans la science, le rôle du philosophe, c'est de rappeler quelque chose qu'il découvre en propre, et que la science n'atteint pas, le jugement d'existence qui repose sur l'expérience humaine, et qui implique justement la qualité, les sensibles propres. Et puis, la finalité. La science comme telle ne saisit pas la finalité, c'est-à-dire, quand je me pose la question, en vue de quoi? Mais c'est très intéressant comme problème. Mais j'ai vu, cela dit à peu près, je crois, 3 ans, c'est un texte qu'on m'avait donné, qui était un projet de loi du Parlement européen, sur, parce que c'était discuté à l'époque dans plusieurs parlements nationaux, sur les fameuses questions de bioéthique. Et on posait cette question, on disait, voilà, on est confronté à des législations différentes, il faut trouver quelque chose où on soit d'accord, qu'est-ce qui va nous permettre de dire et de poser une loi qui permette de réglementer cette question? Alors on disait textuellement, la seule chose qui permet de trouver une connaissance universelle, c'est ce que dit la science. Donc prenons les conclusions scientifiques, et si scientifiquement et techniquement c'est possible, c'est donc légal. Oui, c'est extraordinaire comme sophisme. Pas une seule fois la question, est-ce que cette découverte scientifique, technique, est-ce qu'elle est quelque chose qui sert à la finalité de l'homme, en vue de quoi? C'est-à-dire, oui, le sens de la vie humaine. Et ça, le savant ne le saisit pas. Et donc, pourquoi la métaphysique aujourd'hui? Pour rappeler à l'homme le sens de sa finalité, le sens profond de sa vie humaine, le pourquoi ultime de sa vie. Le philosophe, aujourd'hui, doit rappeler que l'apanage de la philosophie, c'est d'être une sagesse. Et aucune science et technique du monde d'aujourd'hui ne peut prétendre à être sagesse, parce qu'elle repose sur le mesurable et qu'elle se sert d'un outil qui est les mathématiques. Alors les mathématiques ne peuvent pas être une sagesse. C'est très important à saisir, ça. Et je dirais, voyez, que le monde scientifique et technique ne doit pas nous décourager. Il doit au contraire encourager le philosophe à être encore plus philosophe. Donc à mieux saisir ce qu'il a en propre. Découvrir la finalité et la finalité de l'homme. Seul le philosophe comme tel parle explicitement de l'homme. Et pourquoi? Je prends un exemple très très simple. Vous allez dire, mais quand même le savant parle aussi de l'homme. Pas comme tel. Prenez l'exemple de la biologie. Que fait le biologiste? Il saisit le matériau vivant. Mais il y a une continuité biologique. Et c'est bien ce que montrent tous les savants d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent à montrer, qu'il y a une continuité biologique de l'animal à l'homme. La différence spécifique qui vient de l'âme spirituelle, ils ne la saisissent pas. Pourquoi? Est-ce qu'ils ne peuvent pas mesurer l'âme? Vous voyez, c'est pas étonnant. Vous voyez. Un savant qui est un vrai savant vous dira, vous parlez de l'âme, c'est très bien, moi comme savant, je ne sais pas ce que c'est. C'est honnête. Il y a donc 2 tentations à éviter, vous voyez. Vouloir prouver l'âme spirituelle par la science, j'évite de nommer des personnes, mais montrer que la science peut aboutir à l'âme spirituelle. C'est faux, c'est de l'apologétique. Ou bien l'inverse, dire, puisque ma science ne parle pas de l'âme, c'est donc qu'elle n'existe pas. Ça, c'est du positivisme. Et c'est les 2 extrêmes dans le même genre, les 2 contraires. Oui. L'apologète qui veut prouver l'âme par la science, je ne peux pas mesurer l'âme spirituelle. Elle n'est pas au bout de mon microscope. Ou l'inverse, si je ne peux pas la mesurer, c'est donc qu'elle n'existe pas. Mais non, c'est que je peux la connaître par une autre connaissance que la mesure biologique. Et ça, c'est essentiel comme distinction, vous voyez. Je ne peux pas. Donc, vous voyez, donc seul le philosophe pourra saisir explicitement ce qu'est l'homme. Et c'est pour ça que Aristote dit textuellement, entre le corps animal et le corps humain, il y a une différence spécifique. parce que le corps humain, il est uni substantiellement à une âme spirituelle qui est forme de ce corps, quidité et acte de ce corps. Je ne peux donc comprendre le corps humain comme corps humain qu'en fonction de l'âme spirituelle. C'est un corps organique, c'est-à-dire au service d'une âme spirituelle. Donc il est spécifiquement différent. Il y a un abîme entre le corps de l'animal et le corps de l'homme. Alors que le biologiste qui mesure, il dit il y a une continuité du côté matériau vivant. Très bien, mais il ne montre pas la cause. Il montre qu'une continuité du côté des dispositions matérielles. Et c'est très important de bien voir ça. La différence spécifique, saisir en propre ce qu'est l'homme, cela appartient au philosophe. Et donc premier aspect, que s'il y a ici, vous voyez, par rapport aux sciences et aux techniques, il y a la tentation d'être relatif à ces sciences. C'est Descartes. Ou bien la tentation inverse de dire les sciences ne disent rien. Ce serait la tentation plutôt de Heidegger, qui dit les sciences se contentent d'être dans les temps, de mesurer les choses changeantes, elles sont dans le devenir, c'est temporel. Le philosophe, c'est le héros de l'être qui se réfugie dans la pensée de l'être. Heidegger est assez méprisant pour les sciences. Je trouve qu'il faut être ni dans l'un ni dans l'autre, et plutôt saisir, il y a des niveaux de connaissances différents, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et montrer ce que la philosophie a de propre, c'est qu'elle conduit à une sagesse. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur le jugement d'existence, parce qu'elle cherche la finalité, parce qu'elle s'intéresse à connaître explicitement ce qu'est l'homme. Et ça, c'est capital. Donc, rappeler le rôle de la philosophie aujourd'hui, c'est rappeler l'importance de l'homme, de la recherche de sa finalité, qui est une question humaine, quel sens de sa vie, et rappeler le réalisme de l'intelligence, qui, au-delà de la mesure, connaît ce qui est. Et mon intelligence ne peut pas être satisfaite que par des mesures. Ça explique beaucoup de choses, vous savez, pourquoi certains savants, sont tous, quelquefois en étant extrêmement compétents dans leur science, sont perpétuellement insatisfaits dans leur vie humaine. Parce que leur science ne peut pas expliquer leur vie humaine jusqu'au bout. Ce qu'ils mesurent, c'est autre chose que ce qu'ils sont réellement comme personnes. Ça, c'est le premier aspect. Je dirais, second aspect, qui est alors peut-être un autre extrême, mais sûrement très important, c'est second grand obstacle qui me semble très important à dépasser pour découvrir une vraie métaphysique, c'est comprendre l'au-delà que la philosophie représente par rapport à la psychologie. Ça aussi, c'est capital. Vous voyez, on ne peut pas rester uniquement dans une description psychologique qui s'intéresse à connaître ce que c'est que le comportement de l'homme. Alors, vous voyez, là, on retrouve une distinction, je l'ai dit tout à l'heure, qui pour moi est essentielle et que je réexplique entre le tiesti, donc le qu'est-ce que l'homme, et le pos, le comment, c'est-à-dire comment telle chose se réalise, son conditionnement. Et le propre de la philosophie, c'est qu'elle regarde le conditionnement à la lumière de la détermination. Et ayant saisi, je prends un exemple, ayant saisi ce qu'est l'amour spirituel, je peux dans cette lumière voir mon conditionnement passionnel et affectif qui donne une très grande complexité pourvu de cette finalité. Donc je peux regarder philosophiquement mon conditionnement humain. Ça, c'est de la philosophie. Je saisis la finalité et dans cette lumière, je peux regarder le comment et dans ce comment, tout le conditionnement, toute la complexité de ce conditionnement. Tandis que il me semble qu'on peut dire que la psychologie ne saisit plus la finalité et qu'elle ne regarde que le comportement qu'elle décrit. Et elle veut saisir des lois dans ce comportement. Là, il y a donc une question extrêmement importante. Et je crois que c'est capital, vous voyez, que si on est plongé dans une pure vision, purement psychologique, on n'arrive pas à saisir l'importance d'une métaphysique. Vous voyez, c'est la différence entre le vécu et le réel. Ça, c'est très important. Et la psychologie regarde le vécu. Ah, vous allez dire, mais c'est un certain réel. C'est sûr que c'est un certain réel. Et si je vous dis, écoutez, arrêtez ça de psychologie. Vous allez dire, mais c'est comme ça que je suis. Je dis, très bien, c'est un réel. Mais c'est un réel à un certain niveau, et dans une certaine immanence. Il y a autre chose que votre vécu. Le réel ne se ramène pas à votre vécu. Donc, vous voyez, ce qui fait sortir du vécu psychologique, c'est le réalisme de l'intelligence qui saisit la réalité au-delà de ce vécu. Et ce vécu, c'est quelque chose qui est intentionnel, qui existe, mais d'une manière intentionnelle, donc relative à un réel. Et ça, c'est très important, et seule la philosophie le saisit. Alors oui, ça, je conclue en vous lisant un texte, parce que je crois extrêmement intéressant, parce que Hegel a déjà soulevé ces deux obstacles. Et là, il donne, je vais vous lire un texte qui est très très impressionnant. quant à son intention. Et je vous ai dit tout à l'heure, et là j'y reviendrai demain matin, que l'intention est sûrement très intéressante et très excellente. Quant à la réalisation, c'est le point de départ qui pêche. Mais son intention est très intéressante. Alors je vous lis ce texte parce que c'est on ne peut plus actuel, hein, et on ne peut plus éclairant pour le monde d'aujourd'hui. Donc ça se trouve dans les leçons sur la philosophie de la religion, hein, dans son introduction. Si j'ai voulu faire de la connaissance de Dieu, alors j'y reviendrai là-dessus demain sur le lien entre la métaphysique et la connaissance humaine, philosophique de Dieu. L'objet de mes leçons, c'est d'abord parce que je considère qu'en aucun temps il n'a été aussi nécessaire et aussi important. Je considère qu'il n'y a eu à ce point besoin de prendre à nouveau cette connaissance au sérieux. Et là se trouve l'intérêt plus direct et l'importance de la philosophie de la religion en notre temps. Donc, Hegel dit à un autre moment que ce qu'il appelle philosophie de la religion, c'est la même chose que ce qu'on appelait théologie naturelle ou métaphysique. Car la doctrine, affirmant que nous ne pouvons rien connaître de Dieu, que nous ne pouvons rien savoir de lui, est devenue en notre temps une vérité tout à fait reconnue, une chose entendue, une sorte de préjugé. Et celui qui forme la pensée, qui tente de se mêler de la connaissance de Dieu, d'en connaître la nature par la pensée, peut s'attendre à ce qu'on n'y accorde pas la moindre attention et à ce qu'une telle pensée se regardait comme une erreur depuis longtemps réfutée, à laquelle il n'y a pas lieu du tout de prêter attention. Plus est étendue la connaissance des choses finies, l'extension des sciences étant devenue presque illimitée, tous les domaines du savoir s'étant immensément accrus, plus est rétrécie la sphère du savoir de Dieu. Oui, c'est très très beau. L'ambivalence, presque la lutte, entre science et connaissance de Dieu. Science et sagesse. Plus était étendue la connaissance des choses finies, l'extension des sciences étant devenue presque sans limite, plus est rétrécie la sphère du savoir de Dieu. Il y a eu un temps où toute science était une science de Dieu. Le trait distinctif de notre temps, en revanche, c'est d'avoir un savoir de toute chose, de chaque chose, d'une quantité infinie d'objets, sauf de Dieu, dont on ne sait rien. Il y eut un temps où l'on éprouvait de l'intérêt, la soif d'avoir une connaissance de Dieu, de sonder sa nature, où l'esprit n'avait et ne trouvait de repos que dans cette occupation, où il se sentait malheureux de ne pouvoir satisfaire ce besoin et considérait comme de moindre importance tout autre intérêt cognitif. Notre temps s'est débarrassé de ce besoin et des efforts qu'il comporte, nous en avons fini avec lui. Et c'est très très intéressant et c'est très beau. Du point de vue de l'intention, c'est très intéressant. Notre temps, il se désole, notre temps, on a fini avec le désir de connaître Dieu. On ne s'intéresse qu'à la connaissance des choses finies, qu'aux sciences, qu'aux mesurables, qu'aux matériels. Et c'est pour ça que je vous dis, un des grands obstacles à la connaissance de la métaphysique, c'est de considérer que la science est toute la connaissance et rien que la science. Oui. Notre temps s'est débarrassé de ce besoin, etc. Ce que Tacite affirme des anciens germains, qu'ils étaient securi adversus deos. Nous le sommes devenus quant au connaître, nous sommes devenus securi adversus deum, c'est-à-dire nous sommes devenus certains contre Dieu. Ne rien connaître de Dieu ne cause plus à notre époque aucun souci. Ce qui passe bien plutôt pour la suprême intelligence, c'est d'affirmer que cette connaissance n'est pas même possible. Alors je passe un petit peu. On doit considérer un tel point de vue, quant à son contenu, comme le dernier degré d'avilissement de l'homme, où il se montre en même temps d'autant plus orgueilleux qu'il s'est démontré à lui-même que cet avilissement est ce qu'il y a de plus élevé et sa véritable destination. Et seul ce côté formel, que l'homme parvient par la connaissance à ce résultat, que sa connaissance appréhende tout sauf le vrai, seul ce côté formel est ce qui a encore quelque intérêt. Tel est donc l'intérêt de la science de la religion en notre temps, science qui a été abandonnée, etc. Oui, c'est très intéressant. Alors, je vous montrerai ensuite comment il prétend répondre. Il dit « Mon intention, c'est de rétablir une sagesse. » Simplement, pour y parvenir, il partira de l'esprit. Vous voyez, donc je vous pose cette question. Si nous faisons de la métaphysique, c'est vrai, c'est pour découvrir une sagesse pour l'homme. C'est-à-dire quelque chose qui donne à l'homme une signification profonde sur le sens de sa vie, sur sa finalité. Je vous ai dit ce matin, pour aider l'homme à comprendre ce qu'est l'esprit, donc ce qu'est sa personne, et de découvrir de Dieu s'il existe, et l'ayant découvert, qui il est. C'est ça ce à quoi la métaphysique nous conduit. Découvrir la personne humaine dans son esprit, s'interroger sur l'existence de Dieu, et l'ayant découvert, chercher à le connaître. Connaître Dieu, connaître l'esprit. Oui, c'est l'intention qu'il veut. Retrouver le sens de la connaissance philosophique d'une véritable sagesse. Amour de la sagesse. Alors, pourquoi une métaphysique aujourd'hui ? Pour maintenir à tout prix pour l'intelligence de l'homme le sens d'une vraie sagesse. On ne peut pas livrer l'homme uniquement aux sciences et aux techniques. On ne peut pas livrer l'homme uniquement à la psychologie. Et la psychologie voudrait être sagesse. Elle voudrait être ce qui règne sur la vie pratique de l'homme. Donc, maintenir l'homme dans le poids de son conditionnement affectif et psychologique. La philosophie libère, parce qu'elle montre à l'homme qu'au-delà de son conditionnement, il y a une finalité, il y a un ce en vue de quoi, il y a quelque chose pour lequel il est fait, même s'il le découvre, même s'il le conquiert dans la lutte. Mais la lutte est un mode, c'est second. Et donc la philosophie, c'est de nous aider à découvrir le sens de la vérité. Et la vérité, c'est ce qui nous libère, en profondeur. Et rappeler à l'homme le sens de sa finalité, cela le libère. Parce que c'est lui montrer qui il est en profondeur. Il n'est pas uniquement dans le mesurable, il n'est pas uniquement dans le vécu psychologique. Et donc, il y a comme deux grands dépassements, je trouve très très importants. Et ça, c'est vraiment très actuel, vous voyez. Ce que Hegel dit en mettant l'importance des sciences et des techniques, puis notamment il parle de la psychologie, il a des paroles terribles là-dessus. Il dit maintenir l'homme dans son sentiment, dans son vécu affectif, c'est manquer de dignité pour l'homme. C'est vrai. Et donc, il y a quelque chose là d'extrêmement important. Alors, on essaiera de mieux comprendre ça demain, puis de voir à partir de là comment la philosophie première va commencer, et quelle est sa structure, quel est son ordre.
Le 9 mai 97, premier cours.
Alors il y a une petite question sur quelque chose sur lequel je comptais revenir, parce que c'est important, puis je suis allé assez vite hier soir à ce propos. Vous dites que l'on fait confiance en philosophie à l'intelligence qui connaît ce qui est. Mais elle est souvent embrumée par des a priori et des idéologies ambiantes. L'intelligence n'est-elle pas dès lors faussée quand elle pose un jugement ? Ah oui, peut-être là il y a une distinction qui est très importante à bien faire. Oui, la différence qu'on a déjà vue et que je peux prendre sous une autre perspective, dans une autre perspective, entre l'intelligence, oui, dans ce qui vient la spécifier. Donc, qu'est-ce qui vient spécifier l'intelligence ? Qu'est-ce qui vient la déterminer ? Donc, ça va être, vous voyez, pour essayer de saisir le tiesti, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'intelligence ? Je vais montrer ça dans un instant. Et puis, au-delà de ce qui la spécifie, qu'est-ce qui est présent dans son exercice ? Donc, dans le pos, dans le comment, oui, qui va impliquer tout un conditionnement. Alors ici, c'est extrêmement important à bien saisir, et c'est une distinction capitale. Je vous ai dit hier que seul Aristote fait vraiment cette distinction, et qu'il faut la reprendre aujourd'hui pour comprendre une philosophie réaliste. Et pour saisir, toujours retenez ça pour, dans une perspective réaliste, pour saisir ce que c'est qu'une puissance de l'âme, on doit regarder son acte. Et premièrement, donc si je veux saisir ce qu'est l'intelligence, je n'ai pas l'expérience de mon intelligence. De quoi ai-je l'expérience ? J'ai l'expérience d'un acte d'intelligence. Donc, pour saisir ce qu'est l'intelligence, commencez par regarder l'expérience que vous avez des actes d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que poser un acte d'intelligence? Oui. Déjà, c'est pas si commode. Et pour saisir ce que c'est que l'acte d'intelligence, pour le distinguer de tous les autres, je dois essayer de saisir qu'est-ce qui vient spécifier cet acte. Oui, on dira son objet, hein, je mets ça entre guillemets. Je prends une analogie pour que vous compreniez bien. Si je veux saisir ce que c'est que la vue, il faut que je regarde l'acte de vision. Quelqu'un qui n'a jamais vu en acte ne sait pas qu'il est capable de voir. Et vous découvrez une capacité que vous avez en vous quand vous faites l'expérience d'un acte et qui actue cette puissance. Et cette puissance, elle s'actue face à un objet. Qu'est-ce qui spécifie la vision? Et quand vous voyez, que voyez-vous? Vous voyez des couleurs. Vous voyez la lumière. C'est l'objet de la vision. C'est le visible. Et je ne vois pas votre intelligence, elle n'est pas de l'ordre du visible. Elle est de l'ordre de l'esprit. Elle n'est pas visible par mes yeux de chair. Vous voyez, c'est une question que se pose saint Thomas, qui est très jolie. Hein. Il dit, est-ce que quand nous serons au ciel, quand nous verrons Dieu, est-ce que nous le verrons avec nos yeux de chair? Ben non, Dieu n'est pas dans l'invisible, dans le visible. Alors, vous voyez, il développe des quantités de choses là-dessus. Bon. Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui spécifie l'acte de vision? Puis, qu'est-ce que je saisis par l'intelligence? Vous voyez, la puissance, c'est l'intelligence. Et on dira en grec la dunamis, la puissance, l'acte d'intelligence, je connais et je connais toujours quelque chose. Qu'est-ce qui vient spécifier mon acte d'intelligence? Alors, je vous ai dit hier, il y a deux aspects. Je peux prendre ça du point de vue du jugement. Ce qui vient spécifier et actuer l'intelligence, c'est ce qui est. L'intelligence dans le jugement d'existence atteint l'acte d'être de la réalité. Ceci que je touche est. Oui. Est-ce que vous touchez l'être de la réalité? Est-ce que je vois votre être? Non. Qu'est-ce que je vois par la vision? Les couleurs de votre visage, la forme de votre nez, ainsi de suite. Oui. Donc, je vois ça. Est-ce que je touche votre être quand je vous serre la main? Pas du tout. Oui, je ne vais pas dire, vous avez un être substantiel. Non, non, non. Qu'est-ce que je perçois par le toucher? Je saisis que vous avez les mains froides. Ou une main, au contraire, brûlante, parce que vous avez de la fièvre. Vous avez une main sèche, ou au contraire, moite, ainsi de suite. Voyez. Le toucher, il atteint quoi? Le chaud et le froid, le sec et l'humide. Je ne touche pas votre être. Qu'est-ce qui atteint le « et » L'acte d'être de la réalité. C'est l'intelligence qui se sert des sensations. Voyez. Ceci que je touche est. C'est l'intelligence qui adhère à ce qui est, en tant qu'il est, dans un jugement. Donc c'est le « et » de la réalité qui vient spécifier, actuer mon jugement. Vous voyez, seule l'intelligence en nous atteint l'être de la réalité. Seule elle touche le « et » du « ceci ». Je ne touche pas votre être, je ne vois pas votre être. Et quand vous m'entendez parler, vous n'entendez pas la voix de l'être. Vous voyez, non, pas du tout. Hein, elle vous terroriserait. Vous entendez la voix de tel individu qui peut être tonitruante, ou ainsi de suite, tout ce que vous voulez. C'est de l'ordre du sensible. Et vous dites, cet homme qui parle, il est. C'est l'intelligence qui atteint le « et » de la personne. Donc ça, c'est fondamental. C'est l'aspect le plus radical de l'intelligence, c'est le jugement. Et puis, je peux regarder ce que je vous ai dit hier, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il y a une opération de l'intelligence qui est de l'ordre du conditionnement, hein, qui est l'appréhension. Ce qu'on appelle l'appréhension, l'intelligence est capable d'assimiler la signification de la réalité. Ce qu'on appelle sa détermination, sa forme. Ceci que je vois est un homme. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Et homme, ça peut être source d'un concept que je porte en moi dans mon intelligence selon un mode intentionnel. Qu'est-ce qui vient spécifier l'appréhension? C'est la forme intelligible. Bon, alors là, je n'entre pas dans tout ça, ce serait un cours de critique sur les opérations de l'intelligence. Mais regardez bien cet ordre, vous voyez. Pour saisir ce que c'est que l'intelligence, je viens à l'expérience d'un acte d'intelligence. Donc, faites appel à votre expérience. Quand vous pensez, qu'est-ce que c'est que penser? C'est pas du tout facile. Et je vous ai dit hier, quelle différence faites-vous entre « je pense à quelqu'un » et « j'imagine ce quelqu'un » Oui, je vous ai dit, Aristote fait cette remarque que beaucoup de philosophes confondent imagination et intelligence. Donc confondent l'acte d'imagination Je me représente quelque chose avec un acte d'intelligence où je saisis l'être ou la signification de la réalité. Mais je n'imagine pas votre être, je ne saisis que par l'intelligence. Et l'animal ne pose pas de jugement d'existence. Oui. Je me rappelle une fois comme ça, c'était quelqu'un que je rencontrais et qui avait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un certain statut social. Et alors il disait, mais si le chien, parce qu'il y avait un chien dans cette pièce, c'était un chien, un joli petit chien de collection. Oui. Il disait, mais si, ce chien dit, cette personne existe. Et c'était une personne avec beaucoup de dignité. C'est pas parce que cette personne a beaucoup de dignité que le chien pose un jugement d'existence plus noble. Non, non, le chien ne pose pas de jugement d'existence. Il est simplement content parce qu'il est chez lui, il a beaucoup de passion pour sa maîtresse, ainsi de suite. Vous voyez, il a sa pitance à heure fixe et ça lui va très bien. On le promène, enfin, vous voyez, il est satisfait. Mais il ne pose pas de jugement d'existence. Il ne dit pas « ceci est, mon maître est ». Non, non, non. Et, tandis que pour l'homme, la vie sensible est habitée par l'intelligence qui atteint dans un jugement le « et » du « ceci ». Et qui, dans l'appréhension, est capable d'abstraire la forme pour qu'elle devienne une forme intelligible. C'est-à-dire capable de spécifier l'intelligence dans l'appréhension. Le problème de l'intellect agent que j'ai traité hier. Alors, rapidement, parce que, encore une fois, ce n'est pas notre sujet. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Donc quand vous dites que l'on peut faire confiance en philosophie à l'intelligence qui connaît ce qui est. Elle est souvent embrumée par des a priori, etc. C'est vrai, mais est-ce que c'est dans sa capacité, dans son objet? Non, c'est dans son exercice. Ce qui spécifie l'intelligence, c'est ce qui est. Dans le jugement, c'est la forme intelligible dans l'appréhension. Il y a un ordre entre les deux. La forme n'est saisie qu'à l'intérieur d'un jugement. Je ne peux pas connaître ce qu'est l'homme si je n'ai pas expérimenté un homme, c'est bien évident. Alors, l'appréhension est fondamentale du point de vue critique, mais ce qui nourrit l'intelligence, c'est ce qui est en tant qu'il est. Et toute appréhension est relative à un jugement. Si j'assimile la forme, c'est pour adhérer à ce qui est. Et toujours ce qui finalise l'intelligence, c'est le jugement. L'intelligence est faite pour connaître la réalité, pas pour avoir des concepts. Le concept, c'est, comme dit saint Thomas, ce par quoi je connais la réalité. C'est un moyen. Ce dans quoi je connais la réalité. Et je fais des raisonnements aussi pour mieux vous connaître. Si je fais des inductions, si je fais des raisonnements déductifs, c'est pour mieux connaître la réalité, c'est ça qui m'intéresse. Un raisonnement qui n'est pas finalisé par un jugement n'a aucun intérêt. C'est comme un moulin à café qui tourne sans qu'il y ait de café dedans. On raisonne, mais il n'y a aucun contenu. Alors vous voyez, c'est très important de bien voir ça. Dans sa détermination, l'intelligence atteint ce qui est. Et par là, elle est au-delà du sensible. C'est ce qu'Aristote appelle le nous séparé. Et il dit, seule la métaphysique nous permet de saisir ce que c'est que le nous séparé, c'est-à-dire l'intelligence, l'esprit, séparé de la matière. Et quant à son objet, l'esprit atteint quelque chose qui est au-delà de la matière. Et c'est pour ça que c'est capital. Hein. Il n'y a que grâce à la métaphysique qu'on peut quitter tout matérialisme. Parce qu'il n'y a pas de cause propre matérielle de l'être en tant qu'être. L'être comme tel n'est pas matière. Et l'être ne se ramène pas à la matière. Donc mon intelligence atteint dans ce qui est quelque chose qui, comme tel, est au-delà de la matière. C'est ce qu'Aristote veut dire quand il dit le nous séparé. Mais vous allez dire, mais séparé, mais quant à son objet, mais pas quant à son exercice. Oui, vous voyez comme c'est important. Hein. Ce que je connais, comment je le connais? Ce que je connais, c'est ce qui est par mon intelligence. L'intelligence est spécifiée par l'être de la réalité. Elle est faite pour connaître ce qui est. C'est ce qui la détermine en propre, ce qui la spécifie. Donc, ce qui distingue l'intelligence de tout le reste en moi. Ce qui distingue l'intelligence du sensible, de l'imaginaire, du corps, etc. Tandis que dans son exercice, dans son comment, l'intelligence s'exerce en étant liée à l'imagination. Et dans l'exercice, l'imagination est présente. Pourquoi? Parce que je n'atteins pas le « et » en dehors d'un « ceci » qui implique le sensible. J'atteins le « et », le « ceci est », j'atteins l'acte d'être de tel « ceci », de tel « homme », de telle réalité existante qui implique le sensible. Et donc, dans son exercice, l'intelligence s'exerce toujours en étant liée aux sensations et à l'imagination. Je n'atteins pas l'être en soi. Et c'est là l'erreur de Suarez, hein, qui dit que la métaphysique commence par l'idée d'être. Mais il n'y a pas d'idée d'être, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe ? Ceci est. Et je ne peux connaître l'être qu'à partir de ceci qui est. Mais comme dit Aristote, toon, legetai, polakos. C'est une expression qu'il faut retenir, au moins pour les hellénistes. Hein. Toon, legetai, polakos, ce qui est dit de multiples manières. Ce qui est, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Jean, c'est la vache, c'est le caillou, c'est le chat, c'est Dieu. Tout ça, c'est ce qui est. Oui, l'être n'est pas dans un genre. L'être n'est pas une forme dont on participerait. L'être, il est dit de multiples manières. Il est donc analogique, dans une très grande diversité. Et dans le ceci singulier, il y a une diversité de détermination extraordinaire. Et votre être, ce n'est pas uniquement votre qualité, ou votre quantité, ou vos relations. Vous voyez, c'est très très instructif. Vous avez des métaphysiques qui ramènent l'être à la quantité, qui ramènent l'être à la qualité, Platon, qui ramènent l'être à la relation. L'être est dit de multiples manières, mais en vous, c'est ce qui est, c'est substance, qualité, quantité, relation, lieu, temps, tout ça, ça existe, c'est ce qui est. Alors, comment connaître l'être ? Oui, je n'atteins ce qui est qu'à travers un exercice qui implique l'imagination sensible. Et saint Thomas a l'audace de dire qu'il n'y a aucun acte d'intelligence qui s'exerce en nous sans qu'il y ait une image, sans qu'il y ait un exercice sensible. Et il dit, même dans la connaissance mystique la plus élevée, le sensible est présent dans l'exercice. Ah, c'est très intéressant. Pas dans la détermination, bien sûr. Dieu n'est pas sensible. Dieu est esprit, donc je ne l'atteins que par la foi et que par l'intelligence. Je n'atteins pas Dieu par mes sensations, je ne toucherai pas Dieu. Ah bien sûr, il y a le mystère du Christ, le mystère de l'incarnation. Hein. Ça, j'y entre pas pour le moment. Quant à l'objet, voyez, Dieu est esprit. Mais dans son exercice, mon intelligence s'exerce en étant liée à l'imagination, au sensible. Et c'est pour ça, voyez, que quand vous restez dans la mesure, vous n'atteignez pas l'intelligence par la mesure. Vous ne pouvez pas mesurer l'intelligence. Je peux mesurer certaines choses quantifiables de l'exercice sensible qui est lié à l'acte d'intelligence. Vous savez, quand on fait un électroencéphalogramme, vous ne mesurez absolument pas l'acte d'intelligence de quelqu'un. Je dis ça parce qu'il y a des savants qui le disent aujourd'hui. Vous savez, il y en a qui disent ouvertement, et sans un instant d'inquiétude, que l'intelligence est purement matérielle et que de toute façon, on va progressivement arriver à fabriquer l'intelligence. Et c'est même quelqu'un d'extrêmement influent qui dit ça. Le professeur Changeux dit ça en France. Le président du comité national d'éthique dit ça textuellement. Il dit « l'esprit est matière ». Et il ajoute, par exemple, le phénomène religieux, l'attitude religieuse, ce n'est qu'un épiphénomène d'une complexion chimique du cerveau de certains individus. Donc s'il prie, c'est parce qu'il a un cerveau qui est de telle manière. Oui, c'est effrayant. Oui. Pouvez-vous mesurer l'intelligence ? Pouvez-vous mesurer l'acte d'intelligence ? Non, il est séparé de la matière. Mais dans son exercice, un acte d'intelligence a des répercussions, puisqu'il se sert de l'imagination, sur le corps. Ah, c'est sûr. Donc vous ne mesurez pas l'acte d'intelligence, vous mesurez certaines choses quantifiables de l'exercice sensible qui implique le corps. Oui, oui, ça va très très loin, ça. De même, dans tous les domaines de la vie. Et donc, vous voyez bien la différence entre ce qu'est l'intelligence, elle est faite pour connaître ce qui est, et comment s'exerce-t-elle pour l'homme, donc l'intelligence humaine, dans son exercice est liée au sensible. Le jugement d'existence est lié aux sensations, donc est lié à l'abstraction, etc. etc. Vous voyez ? Mais ça, c'est l'exercice, c'est le comment. Donc quand vous dites... Mon intelligence est parfois embrumée. Ah, c'est dommage pour vous. Voyez, hein. Elle est souvent embrumée. Ça m'inquiète. Bon, elle est souvent embrumée par des a priori, des idéologies ambiantes. C'est imaginaire, ça. Voyez. C'est pas l'intelligence comme telle. Hein. C'est dans son exercice, elle a du mal à émerger de la gangue de l'imaginaire. Ah oui. C'est vrai, beaucoup de gens restent dans l'imaginaire. Aristote dit déjà ça de son temps. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Et saint Thomas reprend cet adage qu'il prend à Aristote. Saint Thomas le traduit en latin « ut in pluribus manent in sensu ». Saint Thomas dit ça très souvent. « Ut in pluribus », la plupart du temps, la plupart des gens, « manent » demeurent « in sensu » dans le sensible. La plupart des gens demeurent dans l'imaginaire, donc demeurent dans les passions, demeurent dans l'affectivité sensible, demeurent dans leur conditionnement psychologique, demeurent dans leur vécu, et ont un mal énorme à rejoindre la réalité telle qu'elle est, au-delà de cet exercice. Et c'est pour ça que c'est capital de faire un peu de philosophie. Ça a quoi comme but ? Réveiller notre intelligence. Vous savez, il y a des éveils successifs. Et à 10h du matin, il y a des gens qui ne sont pas encore éveillés dans leur intelligence. Ils sont réveillés péniblement au niveau de la vie biologique. À 7h30, ils sont levés depuis 1h30, ils commencent à émerger vaguement. Alors, il faut qu'ils prennent un café, ça va déjà un peu mieux. Ça n'éveille pas votre intelligence, le café, vous savez. Ça réveille, oui, peut-être quelque chose de biologique, mais pas plus. Qu'est-ce qui réveille l'intelligence ? Atteindre ce qui est. C'est le réel qui nourrit notre intelligence et qui l'éveille. Donc, dépasser toute cette gangue imaginative, tous ces a priori, tous ces chaînes qu'on peut avoir pour rejoindre le réel tel qu'il est, en tant qu'il est. Et ça, c'est le rôle de la métaphysique. Parce que seule, elle nous permet d'atteindre le nous séparé. Donc, oui, je peux prendre ça pour répondre à la question de cette manière. Pourquoi la métaphysique ? Pour réveiller notre intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Elle est faite pour connaître ce qui est. C'est pour ça que c'est quelque chose de vital. C'est pas de l'ordre, c'est pas une espèce de chose, un jeu inutile, la métaphysique. Oui, c'est inutile, c'est inutilisable, comme la contemplation. Mais la contemplation est inutile. Pourquoi ? Elle a sa finalité en elle-même. La recherche de la vérité a sa finalité en elle-même. Et c'est pour ça que j'aurais pu vous dire hier soir aussi que j'ai parlé des obstacles à la métaphysique, qu'il y a un obstacle qui est capital à dépasser. Comprendre que notre intelligence n'est pas uniquement rivée à quelque chose d'utilitaire. Parce que ça, c'est au fond ce que les sciences exactes nous invitent à dire. Si, vous voyez, moi c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Quand on voit le nombre de gens qui sont, j'allais dire entre guillemets, consacrés à la science, c'est très impressionnant. Qui mettent toute leur intelligence dans les sciences exactes. Ben pour le philosophe, c'est quelque chose qui est un peu rude à porter. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas se contenter d'être dans la mesure, dans la connaissance des choses matérielles. Elle est faite en profondeur pour connaître ce qui est, et à partir de là, s'élever jusqu'à la connaissance de l'esprit et de Dieu. Et cela seul est une sagesse. Donc, si on ne comprend pas qu'il y a une recherche de la vérité pour elle-même, en dehors d'un aspect pratique et utilitaire, on a beaucoup de mal à comprendre l'importance de la métaphysique. Et donc on pourrait dire, et ça vous voyez, c'est le fruit des idéologies athées, pour Marx, vous voyez cette chose capitale de Marx, qui dit « Jusqu'à maintenant, les philosophes ont cherché à connaître le monde, et maintenant il faut le transformer. » Mais ça c'est terrible, parce que beaucoup de gens disent ça aujourd'hui. Vous n'êtes intelligent que si vous avez une efficacité temporelle, mesurable, si vous changez, si vous faites quelque chose. Eh bien, la métaphysique n'est pas dans l'ordre du faire. Elle est dans l'ordre de connaître la vérité pour elle-même. Et si on ne saisit pas le dépassement d'une connaissance théorétique, c'est-à-dire contemplative, qui connaît la vérité pour elle-même, au-delà d'une connaissance pratique, on ne voit pas l'importance de la métaphysique dans la vie de l'intelligence. Et elle n'est pas de l'ordre de l'utile. Elle n'est pas d'ordre de l'utilitaire, de l'ordre de l'utilisable. Elle n'est pas d'ordre pratique. Et donc ça, c'est une question très importante. Notre intelligence ne peut pas uniquement être ordonnée à faire quelque chose, à régler des problèmes pratiques, à mesurer des choses matérielles. Elle a en elle-même un appétit de vérité qui demande de s'épanouir pour lui-même. Et c'est ce qu'on appelle, en philosophie, j'y reviendrai tout à l'heure, le dépassement de la connaissance pratique par une connaissance théorétique ou spéculative, c'est-à-dire qui connaît la vérité pour elle-même. Alors, justement, peut-être pour nous y introduire, je voudrais vous lire un petit texte d'Aristote qui est dans la métaphysique et qui est très intéressant pour essayer de comprendre le rôle de la métaphysique. Et je vous ai dit hier, en vous citant ce texte de Hegel, qu'il nous montrait qu'il faut retrouver ce sens d'une sagesse philosophique qui risque toujours de disparaître quand on ramène uniquement l'intelligence aux phénomènes matériels et quantitatifs, aux mesurables, aux sciences dites exactes. Alors, on trouve quelque chose d'analogue, vous voyez, tout à fait différent, mais fondamentalement chez Aristote. Alors, pour Aristote, vous voyez, je dirais d'une manière radicale, qu'est-ce qui fait comprendre ce qu'il appelle la philosophie première ? C'est qu'elle est ordonnée à être une sagesse. Alors là, vous voyez, je m'explique sur des questions de termes. Aristote ne parle jamais de métaphysique. Le terme n'est pas d'Aristote. Donc, si on veut être un petit peu réaliste, je crois que c'est intéressant de revenir à ce terme tel qu'Aristote veut l'employer. Il parle, lui, de philosophie première. Philosophia prote, en grec. Qu'il dit être ultimement une sagesse, c'est-à-dire elle devient théologie. Et ça aussi, c'est très très important. Le mot théologie n'est pas spécifiquement chrétien. Il est employé par les Grecs païens bien avant le Christ. Théologie, ça veut dire, littéralement, connaissance de Dieu, hein, ou bien discours sur Dieu. Oui, et ça, il faut faire un petit peu attention. Vous voyez, saint Thomas dit bien dans la Somme théologique qu'il faut distinguer la théologie qui est une partie de la philosophie, de la théologie qui s'appuie sur la foi et qu'il appelle pour sa part la doctrina sacra. Ah oui, ça, il faut faire un petit peu attention, c'est juste une question de vocabulaire que j'estime important de préciser parce que peut-être pour certains, ce sera objet de confusion. Quand on dit théologie, on n'est pas nécessairement dans une terre chrétienne. Il y a une connaissance naturelle de Dieu par notre intelligence livrée à ses seules forces naturelles. C'est pour ça qu'on a appelé cette théologie philosophique, qu'on a parfois appelé théologie naturelle, pour la distinguer d'une théologie révélée qui s'appuie sur la foi, que saint Thomas appelle la doctrina sacra, c'est-à-dire l'enseignement sacré, l'enseignement saint, qui présuppose la foi. La théologie chrétienne s'appuie sur la foi. Donc, c'est un autre registre. Ici, je suis en philosophie. Donc, je dis ça simplement pour distinguer. Pour Aristote, la philosophie première, dans son sommet, devient sagesse, c'est-à-dire théologie, c'est-à-dire connaissance de Dieu. Connaissance de celui que les traditions religieuses appellent Dieu, et qu'Aristote, dont Aristote dit qu'il est la substance première et qu'il est acte. Il dit une substance qui est acte, acte pur, dont la vie éternelle est de se contempler lui-même. Donc la philosophie première devient sagesse, théologie, dans ce qu'elle a d'ultime. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par philosophie première ? Et déjà, ce terme est important. Et là, c'est le terme propre à Aristote. Platon n'emploie pas ce terme. Alors on le retrouve aujourd'hui chez certains philosophes contemporains. Et je crois que c'est intéressant parce que c'est vouloir dépasser le terme métaphysique qui est beaucoup plus tardif, qui vient des disciples d'Aristote, et qui veut dire littéralement « après la physique ». Donc il y a la philosophie de la nature, puis après il y a encore autre chose. Alors vous voyez, c'est matériel ça comme classement. Pour Aristote, je parle de philosophie première dans la mesure où il y a différentes parties de la philosophie. Donc s'il y a différentes parties de la philosophie, il faut découvrir un certain ordre. Vous voyez, toute multiplicité appelle un ordre. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par philosophie première ? Elle est première dans un ordre de perfection. Ah oui, là, on touche tout de suite, vous voyez, des choses extrêmement intéressantes, mais qui présupposent beaucoup de choses de la philosophie d'Aristote. Aristote distingue toujours en philosophie deux ordres. Ce qu'il appelle l'ordre de perfection ou l'ordre de nature. Je vais expliquer dans un instant. Et puis, ce qu'il appelle l'ordre génétique ou bien l'ordre de découverte. Et ça, quand vous lisez un petit peu Aristote, vous verrez qu'il y a toujours ces deux distinctions. Et c'est très important parce que, ce n'est pas parce qu'Aristote le dit que c'est vrai, mais je cite Aristote parce que je crois que c'est extrêmement important comme distinction. Pour que nous comprenions comment découvrir une vraie métaphysique, une vraie philosophie première. Pour Aristote, elle est première dans un ordre de perfection, c'est-à-dire elle épanouit dans l'intelligence ce qu'il y a de plus radical et de plus profond. Ce qu'est l'intelligence en profondeur ne s'épanouit pleinement que dans la philosophie première. Parce que quand on connaît ce qui est, en tant qu'il est, on met en lumière ce qu'il y a de plus radical et de plus ultime dans la connaissance que nous pouvons avoir du réel. Et on retrouve ce que je vous ai cité de saint Thomas hier, primo cadit in intellectu ens. Ce qui spécifie d'une manière première, dans un ordre de perfection, L'intelligence, c'est ce qui est. Et l'intelligence est faite pour connaître ce qui est en tant qu'il est, tel qu'il est. Et quand je vous connais, qu'est-ce que je peux atteindre en vous de plus radical et de plus ultime ? C'est le « et », c'est le fait que vous êtes, c'est votre être. Je ne peux pas aller plus loin. Mais je peux vous décrire par des choses sensibles. Je peux saisir certaines choses de vous, certaines déterminations. Je peux avoir saisir votre cuidité, etc. Mais qu'est-ce qui est le contact le plus profond entre mon intelligence et ce que vous êtes ? C'est votre être. Et quand je dis « ceci que je vois est », je peux mettre l'accent sur le « ceci ». Je peux dire « c'est une vache », « c'est un homme », « c'est un tel ». Bon, très bien. Mais je peux mettre l'accent sur le « et ». Je ne m'intéresse pas uniquement à tel ceci, à dire c'est telle forme, telle détermination, mais j'atteins le « et » de cette réalité qui est présent à toutes les déterminations de la réalité. J'atteins l'acte d'être de cette réalité. Et ça, on va y revenir tout à l'heure, c'est le point de départ et le fondement de la métaphysique. La philosophie première commence par le jugement d'existence « ceci est ». Qu'est-ce que je veux dire quand je dis « est » ? Oui, tout de suite, hein, ce jugement va susciter une interrogation. Qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que c'est que être ? Qu'est-ce que exister ? Mais ici, je reste un peu dans le vague exprès. Hein. Qu'est-ce que être ? Quand je dis « ceci est », qu'est-ce que l'être ? Qu'est-ce que être ? Oui. Heidegger dira que lui, il ne commence pas par cette question, il commence par « pourquoi y a-t-il donc de l'être et non pas plutôt rien ?» Mais on passe par le possible. Ce n'est pas mon expérience. L'expérience, c'est que je vous expérimente, je vous vois, je peux vous serrer la main, pour être un ami, pour être quelqu'un avec qui je travaille. Au-delà de tout cela, qu'est-ce qui est le plus radical ? Ceci est. Quand je travaille, je suis. Quand j'aime, je suis. Mon corps existe. Dans mes opérations vitales, je suis. Quand je mange, je suis. Et la carotte que je mange, elle est. Oui, c'est ce qu'il y a de plus radical, vous voyez. Ce qu'il y a de plus fondamental dans la réalité, c'est le « et ». Et je dis que c'est premier dans un ordre de perfection parce que c'est ce qui vient déterminer et spécifier l'intelligence dans ce cas-là de plus profond, de plus radical. Donc, pour me faire comprendre ce qu'est l'intelligence dans ce cas-là de plus elle-même, qui est à la fois le plus radical et le plus ultime. Et l'acte, ça finalise et ça dévoile les profondeurs les plus radicales de l'intelligence. L'intelligence qu'elle a de plus profond, elle est faite pour connaître l'être, ce qui est. Et à partir de là, s'élever jusqu'à la connaissance la plus profonde qui va être la sagesse, on va voir. Donc vous voyez, c'est ce que je veux dire, première dans un ordre de perfection. Donc parmi toutes les parties de la philosophie, quelle est la philosophie la plus profonde, la plus parfaite, la plus ultime ? C'est la philosophie première ou la métaphysique parce qu'elle met en lumière ce que l'intelligence atteint de plus radical dans la réalité. Alors pour le faire comprendre, hein, je peux mettre, vous voyez, je peux vous rappeler rapidement les diverses parties de la philosophie hein, en quelques minutes. Il y a d'abord une philosophie dite pratique qui réfléchit sur les activités de l'homme. Il y a alors, dans cette philosophie pratique fondamentalement ce qu'on appelle la philosophie de l'art ou de l'activité artistique, et où je pars de l'expérience du travail. Oui, je prends exprès ces deux extrêmes. La philosophie première, elle est première dans un ordre de perfection. La philosophie de l'art, elle est première dans un ordre génétique, de découverte. La philosophie réaliste commence par une philosophie de l'art qui s'appuie sur l'expérience du travail, de l'homme qui fait une œuvre, donc d'une activité, et qui cherche à comprendre cette activité pour comprendre à travers ça ce qu'est l'homme travaillant. Et donc, regardez simplement ces deux aspects. Je peux vous regarder uniquement en tant que vous êtes un artiste, c'est-à-dire en tant que vous faites quelque chose. Oui, je peux, vous voyez, tout de suite, chacun d'entre vous a une certaine expérience de l'activité artistique tout de suite. Hein. Vous êtes en train d'écrire, vous prenez des notes. Ça peut être très instructif, vous voyez, je vois même des dessins, vous voyez, c'est très instructif. La métaphysique ne se dessine pas pourtant, vous voyez. La substance ne peut pas être dessinée. Alors je pourrais dire, écoutez, montrez-moi ça, c'est sûrement une œuvre d'art absolument extraordinaire, vu que vous passez votre cours à faire ça, c'est sûrement très intéressant. Il y a sûrement un génie caché dans la salle, sûrement, vous voyez. Donc je peux dire, je peux regarder l'homme uniquement, vous voyez, en tant qu'il est un artiste. Je veux dire, vous faites une œuvre, vous faites quelque chose. Et je peux regarder l'homme en tant qu'il fait une œuvre, en tant qu'il fait quelque chose. C'est le faire. Oui. Philosophie pratique, qui réfléchit sur l'activité du faire, l'activité du facere. Et on dira en grec le poiein. Et je saisis à travers cela le développement d'une intelligence artistique qui se structure grâce à l'inspiration dans une idée source d'une œuvre. Et l'artiste invente quelque chose. Donc il y a un développement de l'intelligence fondamentale qui est l'intelligence artistique. Bon, et puis, à l'autre extrémité, je peux vous regarder en tant que vous êtes. C'est deux choses différentes. Et donc Aristote distingue, autrement dit, la réalité telle qu'elle est et puis les différentes connaissances que je peux en avoir sous des points de vue différents. Je peux vous regarder sous des points de vue différents. Je peux vous regarder en tant que vous travaillez, philosophie de l'art. Je peux vous regarder en tant que vous posez un acte volontaire que vous êtes capable d'aimer, philosophie éthique. Je peux vous regarder en tant que vous êtes partie d'une communauté, philosophie politique. Oui, il y a déjà trois parties de la philosophie. C'est ce qu'on appelle la philosophie humaine ou pratique. Je réfléchis sur les activités de l'homme. Je fais une œuvre d'art, je travaille. J'aime une personne, je fais partie d'une communauté et je coopère à son bien commun. Philosophie politique. Et il y a donc trois parties de la philosophie dite pratique, philosophie de l'art, philosophie éthique, philosophie politique. Oui, je regarde les activités de l'homme. C'est une espèce d'anthropologie, si vous voulez. Puis je peux vous regarder de manière plus radicale, philosophie première, je vous regarde en tant que vous êtes. Oui, je vous ai dit hier, en philosophie, je regarde toujours ce qui est. Je m'intéresse à la réalité existante dont j'ai l'expérience. Mais je peux vous regarder, je peux regarder ce qui est sous des points de vue différents. Ce qui est l'homme en tant qu'il peut travailler, en tant qu'il est un artiste. Ce qui est l'homme en tant qu'il est capable d'aimer. Ce qui est l'homme en tant que membre d'une communauté. Ce qui est l'homme en tant qu'il est. Alors là, j'entre en philosophie première. La philosophie première, c'est une partie de la philosophie qui s'intéresse à connaître ce qui est en tant qu'il est. Vous voyez, c'est l'expression qu'Aristote emploie quand il dit que l'objet de la métaphysique, ce qu'on considère en métaphysique, c'est le to-on. E-on. Je ne mets pas les accents, c'est compliqué. To-on, e-on. To-on, ce qui est en tant que, on, il est. Ce qui est en tant qu'il est. Et donc, Aristote distingue tout le temps la réalité dans sa complexité des niveaux d'intelligibilité à laquelle je peux la considérer. Je peux vous regarder uniquement en tant que vous êtes un artiste. C'est la philosophie de l'art. Je regarde l'homme réalisant une œuvre d'art. L'homme travaillant. Je peux vous regarder en tant que vous êtes, c'est la métaphysique, c'est la philosophie première. On entre en métaphysique quand on saisit que le jugement d'existence, ceci est, en mettant en lumière le « et » du « ceci », nous introduit à un nouveau domaine de connaissance de la réalité qui est de la considérer en tant qu'elle est. Avec la grande différence avec les autres parties de la philosophie, c'est que le « et », il est présent à toutes les dimensions de la réalité. Ce que je dis tout à l'heure, quand je travaille, je suis. Quand j'aime, je suis. Quand je suis membre d'une communauté, je suis. Donc l'être est présent à toutes les autres parties de la philosophie. C'est pour ça que quand on entre en métaphysique, en philosophie première, on va reprendre d'une manière beaucoup plus profonde tout ce qu'on a déjà vu en philosophie avant. Et donc, elle est première dans un ordre de perfection en tant qu'elle est un peu la clé de voûte de toute la philosophie. En mettant en lumière le jugement d'existence, j'approfondis mon regard pour saisir d'une manière radicale ce qu'est la réalité dans ce qu'elle a de plus profond dans son être. Et philosophie première dans un ordre de perfection. Alors que la philosophie de l'art est première dans un ordre génétique. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. La philosophie la plus simple, la plus facile à comprendre dans une philosophie réaliste, c'est la philosophie de l'art. Parce que l'expérience du travail est fondamentale pour l'homme. Et c'est là qu'on découvre, ce qu'on verra, les causalités. L'analyse philosophique par les causes, elle se découvre en philosophie de l'art. Donc on commence en philosophie de l'art, mais on trouve le sommet de la philosophie dans la philosophie première. Et donc, Peut-être je prends un exemple pour vous dire la différence entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection. L'ordre génétique, je vous regarde du point de départ de votre vie jusqu'au terme. Vous êtes génétique en français. Méfiez-vous du terme génétique, ce n'est pas la génétique, la biologie génétique ou je ne sais quoi, ce n'est pas ça. Génétique, ordre génétique en philosophie, ça vient de génésis, qui veut dire le devenir. L'ordre génétique, c'est l'ordre du devenir, donc l'ordre du temps. Vous avez été un enfant, vous êtes devenu un adulte, ordre génétique. Vous avez parcouru quelque chose, c'est l'ordre génétique, l'ordre du devenir. Cette session a commencé hier, elle se terminera dimanche, ordre génétique. Vous avez subi, et vous allez subir 4 jours. Vous en êtes au 2e jour, vous commencez à arriver au milieu du fleuve. C'est l'ordre génétique. Cette session dure encore combien de temps, Seigneur? Je ne comprends rien, c'est effrayant, vous voyez. Alors, combien de temps ça va encore durer? Ordre génétique. Il y a un certain devenir. On devient intelligent. La session a pour but, peut-être, de vous faire comprendre une chose. C'est déjà beaucoup si vous avez compris une chose. Vous êtes plus intelligent en partant qu'en arrivant. Vous voyez, on devrait faire ça au début et à la fin de la session. Faire une pesée métaphysique. Vous voyez. Est-ce que le bébé a grossi pendant 4 jours, vous voyez. Ou bien est-ce qu'au contraire, il est rachitique, ça ne va plus du tout. Il meurt de faim en partant, c'est effrayant. Alors, vous voyez, ordre génétique, c'est l'ordre de la croissance, l'ordre du devenir. L'ordre de perfection, c'est que je regarde au contraire un être dans la lumière de ce qui est parfait en lui. Vous savez, cette remarque d'Aristote extrêmement belle. Aristote dit, je ne peux comprendre ce qu'est la nature du cheval qu'en regardant le cheval parfait. C'est très très intéressant. C'est pas en regardant l'embryon que je comprends l'adulte. C'est pas en regardant l'enfant que je comprends l'homme adulte. En regardant l'homme adulte, je comprends l'enfant qui est en puissance un homme adulte. Donc pour saisir ce que c'est parfaitement que l'homme, il faut regarder l'homme parfait. Oui, c'est pour ça qu'Aristote dit qu'en philosophie, il faut un minimum d'expérience humaine parfaite, sans quoi on ne peut pas saisir. On ne fait pas la philosophie d'abord du fou. On fait la philosophie de l'homme normal et en bonne santé. Et dans cette lumière, on voit ce que c'est qu'une déficience. Oui. Et c'est capital, parce que vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais aujourd'hui, c'est des choses que les gens ne comprennent plus. Oui, je vous dis par exemple, vous voyez, on prétend définir la santé par la maladie, mais c'est une erreur. La santé est une qualité positive de l'homme qui est de côté de l'ordre de perfection. Il est parfait pour un homme d'être en bonne santé. La maladie, c'est quoi? C'est une déficience. Donc ça se comprend à partir de la santé et pas l'inverse. C'est un manque, c'est un mal. Et le bien n'est pas le résultat de tous les maux. C'est pas en additionnant toutes les maladies que je vais trouver la santé. C'est pas en additionnant les erreurs que je vais trouver la vérité. Mais ça a l'air de rien, vous savez, mais Hegel dit ça. Il dit textuellement, la vérité, c'est la somme de toutes les erreurs. Mais c'était énorme de dire ça. Parce qu'il ramène tout à l'ordre génétique. Et dans l'ordre génétique, dans l'ordre du devenir, je peux me tromper. Donc au terme, j'arriverai à une connaissance. Mais c'est important de bien voir ça, vous voyez. Hein. L'ordre de perfection, je ne comprends parfaitement ce qu'est une chose que dans la lumière de ce qui est parfait dans cette réalité. Pour comprendre ce qu'est l'homme, ce qu'est la nature de l'homme, regardons l'homme parfait. Alors, pour comprendre ce qu'est l'intelligence, regardons l'intelligence parfaite. Qu'est-ce que l'intelligence parfaite? C'est celle qui connaît ce qui est. Et ainsi, elle saisit la vérité. Qu'est-ce que l'intelligence parfaite? Celle qui atteint la sagesse. Celle qui découvre l'être premier, cause ultime de toute chose. Ainsi, elle atteint la perfection. Et pour comprendre ce qu'est l'intelligence humaine, dans un ordre de perfection, je dois regarder la métaphysique qui est première dans un ordre de perfection. Seul ce qui est actue en profondeur notre intelligence. Vous voyez, ça c'est très important de bien voir, hein, que pour Aristote, la philosophie première, elle est faite pour devenir sagesse. Elle est donc première dans un ordre de perfection pour l'intelligence, pour la connaissance. Ce qu'est l'intelligence dans sa perfection, la métaphysique me le fait saisir, parce qu'elle développe ce qui est premier dans la connaissance, dans l'ordre de perfection, dans la connaissance de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse pour Aristote? Je termine ce cours en vous lisant ce texte, je vous avais dit hier, et puis je reviendrai tout à l'heure sur la structure scientifique de la sagesse. Donc, on verra cet ordre de découverte de la métaphysique. Vous voyez, là, je vous donne l'ordre de perfection. Qu'est-ce qui est ultime dans la philosophie première? À quoi est-ce qu'elle est ordonnée ultimement? Puis après, on verra comment est-ce qu'on y parvient progressivement. D'où on part, quelle est cette structure, quel est le cheminement qu'on parcourt pour découvrir la sagesse philosophique. Alors, il y a d'abord un petit passage que je vous lis qui est, je crois, extrêmement important à rappeler. C'est, ça se trouve dans le livre Grand Alpha de la... Alors, vous savez, comment est-ce qu'on note les références au texte d'Aristote? C'est un peu compliqué. Ça, c'est pour que vous puissiez retrouver les textes si vous les cherchez. Parce qu'il y a plusieurs éditions qui n'ont pas toutes les mêmes découpages, etc. Mais il y a toujours une référence commune à l'édition Princeps, donc qui sert de base. Donc, ça se trouve donc Métaphysique. Donc, l'œuvre, c'est la Métaphysique d'Aristote. Livre Grand Alpha. Chapitre 2. Et puis, la référence du texte, donc complet, la référence complète, c'est 982 B. Ligne 4 à 10. Donc vous voyez, dans toutes les éditions, vous trouvez toujours cette référence-là. Ça, c'est la référence à l'édition Baker, qui a été éditée, et qui, donc c'est le numéro de page de cette édition, colonne B, ligne 4 à 10. Donc toutes les éditions, toutes les traductions ont toujours cette référence en marge, pour qu'on trouve facilement les textes. Alors, je vous lis ce passage qui est, je crois, très, très éclairant pour commencer. Donc c'est un passage où Aristote se demande qu'est-ce que c'est que la sagesse et qu'est-ce que le sage. Et il termine, alors il donne six caractères que je vous épargne, mais il termine par le dernier, extrêmement éclairant. La plus dominante des sciences est celle qui commande le plus à ce qui est subordonné. C'est celle qui connaît en vue de quoi chaque chose est accomplie. Cela, c'est le bien de chacun. Et d'une manière générale, c'est ce qui est le meilleur dans la nature tout entière. La connaissance, la sagesse doit donc être une connaissance théorétique, contemplative, des premiers principes et des premières causes. Et en effet, le bien, le ce en vue de quoi, est l'une des causes. Ah oui, c'est très très beau. La sagesse, c'est une connaissance qui est première, dans l'ordre de perfection. Et Aristote dit, la plus dominante est celle qui commande à toutes les autres sciences. Donc, la sagesse pour Aristote va avoir comme rôle d'ordonner toutes les connaissances humaines. Pourquoi ? Parce qu'elle est la connaissance la plus parfaite. Étant la plus parfaite, première dans un ordre de perfection, elle ordonne donc toutes les autres connaissances. Et seule la philosophie est sagesse. Parce qu'elle atteint ce que l'homme peut connaître de plus profond dans la réalité dont il a l'expérience, et s'élever jusqu'aux connaissances de ce qui est le plus ultime dans la réalité existante. Donc, elle leur donne toutes les connaissances. Vous voyez, elle est première, et qu'est-ce qui lui donne ce caractère-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est première dans l'ordre de perfection? C'est qu'elle connaît ce en vue de quoi chaque chose est accomplie. Autrement dit, le caractère propre de la sagesse, c'est qu'elle s'interroge sur la finalité et le bien ultime des choses. Et c'est très extraordinaire. C'est celle qui connaît en vue de quoi chaque chose est accomplie. Cela, c'est le bien de chacun. Le bien, c'est quoi? C'est ce en vue de quoi j'accomplis tout le reste. Donc, la sagesse est par excellence la connaissance qui va mettre en lumière la finalité. Et on va voir que ça va impliquer deux grands développements que je vous montrerai dans le cours suivant. La connaissance de la finalité en métaphysique va impliquer deux grands aspects. Alors oui, pour le moment, je vais doucement. Cela, c'est le bien de chacun. Et d'une manière générale, c'est ce qui est le meilleur dans la nature tout entière. Et donc on cherche ce qui est le plus ultime, le bien le meilleur, qui ordonne donc de manière ultime toute chose. La sagesse doit donc être une connaissance théorétique des premiers principes et des premières causes, et en effet, le bien, le ce en vue de quoi, est l'une des causes. Alors, je vous lis un autre passage, sur lequel je reviendrai. Donc, ça se trouve là, pareil, même chapitre, les lignes suivantes, lignes 11 à 21. Qu'elle ne soit pas une connaissance réalisatrice, mais donc de l'ordre du faire, de l'ordre de l'activité artistique. Cela est évident à partir de ceux qui ont philosophé en premier. C'est par l'étonnement, aujourd'hui comme au point de départ, que les hommes commencent à philosopher. Or, celui qui pose les difficultés et s'étonne comprend qu'il ne connaît pas. Ainsi, puisque les hommes ont philosophé pour fuir l'ignorance, il est manifeste qu'ils recherchaient le savoir en vue de la seule connaissance et non pas pour quelque chose d'utile. Et donc, la connaissance de la sagesse, oui, elle est d'abord ordonnée à la connaissance du en vue de quoi ? Connaissance de la finalité. Deuxièmement, c'est une connaissance contemplative. Oui, l'expression qu'emploie Aristote, hein, je traduis de cette manière, théorétique. Hein, ça vient du grec théoria.